En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
Bonsoir, bienvenue dans En attendant le moment, le programme du média collaboratif Le Moment, installé ici, dans cet immense tiers-lieu qui prend place au sein du campus universitaire de Sancy. On est au cœur du quartier latin à Paris. Depuis un mois, on vous propose une heure d'information, une heure de radio buvette d'actualité, car nous sommes en direct, en public, à la buvette de Césure. C'est le nom désormais de ce site qui accueille 180 structures, des associations, des artistes, des artisans, des acteurs du monde de la culture, et puis nous, notre média, Le Moment, évidemment. Cette première émission construite en commun est diffusée sur nos radios partenaires, Radio Cause Commune, Aligre FM et sur Vivre FM. Elle est également filmée et donc accessible en vidéo pour voir nos trombines transies de foin puisqu'il fait 7 degrés dans la cour et qu'il fait pas très chaud ce soir. C'est enfin l'hiver après une année qui aura été sans conteste la plus chaude jamais enregistrée en France en raison du réchauffement climatique. Mais voilà, le froid est enfin là et avec lui un rappel important. C'est une période dangereuse cette période pour les plus fragiles, pour les 12 millions de Français les plus mauvaises. On va donc parler dans cette émission avec nos invités de solidarité et de précarité, mais aussi un peu de politique. Alors pourquoi ? En raison de deux textes de loi dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Le premier est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale, il concerne le logement. C'est un texte qui veut faciliter l'expulsion des squatteurs et des locataires qui ne payent pas leur loyer. Le deuxième texte a été ainsi résumé par celui qui est à son initiative, être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Je vous pose une question à mes invités. Est-ce que vous savez de qui il s'agit?
Oui, je crois bien, oui, les locataires.
Non, là, qui a prononcé cette phrase? Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils?
Je pense que c'était un méchant.
C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui parle ainsi.
J'ai gagné.
Je te laisse maître de tes propos, mon cher Paul. Qui parle ainsi concernant son projet de loi Asile et Immigration qui sera à l'Assemblée à partir du 6 décembre. Vous l'aurez compris, on n'est pas vraiment dans l'esprit de Noël dans cette émission. Ce texte fait en tout cas beaucoup réagir les associations qui s'occupent de l'accueil des réfugiés en France. Elles ont été consultées par le ministère, mais estiment qu'elles ont été à peine entendues. En tout cas, ce sujet est très polémique et très politique. Et puis dans cette émission, on va faire une large place également aux actions de solidarité étudiante, avec un constat glaçant. 40% des étudiants qui vivent seuls sont en situation de pauvreté. Le gouvernement vient de débloquer 10 millions d'euros, mais cette somme semble relativement insuffisante face à l'ampleur du problème. Hiver 2022, face à la précarité, sommes-nous suffisamment solidaires? C'est le thème de En attendant le moment. On est ensemble jusqu'à 19h.
En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
Alors pour la première partie de notre thématique précarité et logement, on accueille deux invités, Paul Citron, urbaniste, cofondateur de Plateau Urbain, cofondateur de La Preuve par 7, installé ici à Césure, également présentateur de l'émission Ainsi va la ville sur Radio Cause Commune. Salut Paul.
Bonjour,
tu es déjà intervenu sur les méchants. Et puis Jean-Jacques Pasco du CLAJ, le comité local pour le logement autonome des jeunes. Salut,
oui,
à toi.
Ça, bonsoir.
Bienvenue. On va notamment parler de ce texte dont je vous parlais dans l'introduction, proposé par un député de la majorité qui est très favorable aux propriétaires pour mieux les protéger contre les occupations illicites et puis de la situation des jeunes dans une ville comme Paris où il faut avoir à peu près une dizaine de garants pour se trouver un studio décent. Mais d'abord, présentation des enjeux du mal logement et de la précarité énergétique avec Danaï Rodriguez. Bonsoir à toi.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous ce soir. Donc avant de lancer le débat autour du mal logement, des logements vacants, les logements insalubres, les logements énergivores, du manque de logements aussi, je vous propose de regarder de plus près quelques données. Donc selon l'INSEE, en Ile-de-France, en 2018, le nombre de logements inoccupés ou partiellement inoccupés s'élève à 395 600 logements. En même temps, au niveau parisien, c'est La Pure qui nous dit que c'est un phénomène qui s'accentue, notamment dans les arrondissements de l'Ouest, avec un taux de logement vacant qui va s'élever par exemple à 4,1% dans le 8e arrondissement de Paris. Donc en logement vide, c'est un logement qui peut devenir squatté, c'est-à-dire occupé par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire. Les réponses à ce phénomène sont donc multiples. Dans des logements sociaux, par exemple, lorsqu'un logement est laissé vide, on va condamner la porte du logement avec une espèce d'énorme plaque en acier qui va empêcher les gens de rentrer illégalement dans le logement, donc en attendant qu'il y ait des nouveaux locataires qui arrivent. Et il y a aussi des mécanismes juridiques qui vont se mettre en place pour lutter contre le squat. C'est le cas du projet de loi qui est porté par Guillaume Kasbarian qui dit vouloir protéger les petits propriétaires. Donc on y reviendra un peu plus tard avec Paul. Mais pendant ce temps, le lundi 28 novembre, donc il y a deux jours à peine, en 500 000, le 115 a enregistré un nombre record d'appels. Et sur les 739 demandes de mise à l'abri, il n'y a aucune qui a pu être satisfaite. Et il faut savoir que parmi ces personnes, il y avait 278 mineurs, dont 100 enfants qui étaient âgés de moins de 4 ans, mais aussi 45 personnes, femmes enceintes. Selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, en France, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé depuis 2012 et s'élève aujourd'hui à au moins 300 000 personnes, c'est-à-dire 300 000 personnes qui sont susceptibles de faire appel à une aide pour obtenir un logement. Par ailleurs, en mai 2021, on recense environ 22 189 personnes qui vivent dans des squats ou dans des bidonvilles. Mais dans le cadre de situations peut-être un peu moins extrêmes que celles que je viens d'évoquer, le constat n'est pas nécessairement moins pessimiste. La demande de logement social progresse deux fois plus vite que le nombre de logements sociaux qui existent, pendant que la construction de logements sociaux est toujours en baisse et le prix du logement est toujours en hausse. Les mécanismes qui se cachent derrière ces données ont été profondément touchés par la crise du Covid aussi, mais leurs effets semblent se pérenniser. Et pour les personnes les plus vulnérables, ce fameux retour à la normale qu'on a tous tant attendu n'est pas trop en train d'avoir lieu. Donc on le voit à travers l'évolution du besoin de faire appel à l'hébergement d'urgence, où il y a de plus en plus de difficultés pour accompagner les personnes qui sont logées à l'hôtel, mais aussi à travers l'augmentation des demandes d'aide financière. Ce qui s'accompagne d'autre part d'une baisse des allocations personnalisées au logement, donc ce qu'on appelle les APL, qui ont baissé de 5 euros en moyenne par ménage. Et c'est une réduction qui représente pour l'État environ 4,2 milliards d'euros en 2022. Donc ça, c'est les chiffres toujours de la Fondation Abbé Pierre. Du côté de la précarité énergétique, qui est un sujet dont nous avons déjà parlé dans des précédentes émissions, les choses n'avancent pas non plus très vite. Donc on nous demande de faire de plus en plus preuve de sobriété, n'est-ce pas, dans notre consommation d'énergie. Et l'État s'est engagé à rénover 500 000 logements chaque année. Mais pour l'instant, on constate que les travaux qui sont engagés, c'est plutôt des petits travaux. On va plutôt... changer la chaudière, isoler les combles, changer des fenêtres, plutôt que de faire des gros travaux de rénovation qui seraient réellement nécessaires. Donc il faut savoir qu'en France, ce sont 12 millions de personnes qui vivent en situation de précarité énergétique. Face à un tel constat, qui n'est pas nécessairement très facile à entendre, comment fait-on donc pour lutter contre le mal-logement ? Quelles sont les perspectives d'amélioration ? Et donc, comme disait Benjamin tout à l'heure, nous avons deux invités pour en parler avec nous.
L'invité du moment.
Nous allons commencer par toi, Paul. Donc, Paul, tu es plus ou moins spécialiste de ces questions-là, des questions d'urbanisme notamment. Et donc, du coup, juste pour revenir sur la question du squat, est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est un phénomène qui est réellement répandu en France ?
Alors, décrirai pas comme un spécialiste de ces questions, il y a des gens qui les connaissent bien mieux que moi, mais en faisant quelques recherches, notamment par rapport à ce qu'il est dit dans l'actualité, par rapport à la proposition de loi qu'on va évoquer, en réalité le squat, donc l'occupation sans droit ni titre d'un logement ou d'un espace, c'est un phénomène absolument mineur. Selon les chiffres, par exemple, il y a eu environ 200 cas de squat par an, selon Emmanuel Wargon, qui était l'ancienne ministre du logement d'Emmanuel Macron, donc c'est quelqu'un qui appartenait à la même majorité que celle qui propose la loi en ce moment. Donc en fait, est-ce que vraiment pour 200 cas par an, alors qu'on a déjà une loi qui permet de protéger le domicile face au squat, dans une tribune collective publiée par Libération le 4 novembre, les auteurs rappellent, eux ils parlent de 170 propriétaires en tout et pour tout en 2021 qui ont sollicité l'intervention de la préfecture. Donc on parle d'un phénomène tout à fait mineur et qui ne sert à rien, à mon avis, d'amplifier ou de sur lequel ça sert à rien de surfer pour faire peur aux gens.
Ouais, donc du coup, par rapport aux chiffres que tu es en train de nous annoncer, tu dis 200, c'est Emmanuel Wargon qui parle de 200 cas. Est-ce que les mesures qui sont proposées dans la loi, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires ?
Peut-être on pourrait revenir sur la loi pour se demander ça. Donc si je lis la proposition de loi qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale, proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dans le chapitre 5, un tiret qui dit « de l'occupation frauduleuse d'un immeuble », article 315-1, je cite « L'occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d'un immeuble bâti à usage d'habitation appartenant à un tiers s'apparente à un vol ». Donc ce mot vol, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on criminalise finalement le fait d'occuper un logement sans droit ni titre. Et ce qui est débattu en ce moment, donc c'est notamment cet article qui criminalise le squat, qui s'en prend une fois de plus aux locataires et aux personnes précaires plutôt que de s'attaquer aux causes de la crise du logement. Et donc on peut se dire que c'est pas forcément utile. Alors il y a eu des réactions à cette proposition de loi. Premièrement, il y a un bon connaisseur du dossier qui me disait en préparant l'émission que cette loi, la droite en rêve depuis des années. En fait, elle défend une application absolue et totale du droit de propriété, c'est-à-dire que, par exemple, on aurait le droit de ne strictement rien faire de son logement, quand bien même d'autres en seraient dépourvus. Et donc voilà, c'est deux conceptions qui s'opposent. Est-ce qu'on doit être obligé d'utiliser son bien pour ce pourquoi il a été construit ou prévu? Ou alors, est-ce qu'on a le droit de ne rien faire? Est-ce que c'est le droit du propriétaire, quand bien même d'autres en ont besoin?
Mais en fait, c'est plus aussi de savoir jusqu'où va ce droit du propriétaire de laisser son logement vide. Est-ce que cette loi, elle prévoit pas, par exemple, des procédures un peu d'encadrement de la durée dans le logement vide, enfin, de combien de temps on peut laisser vide son logement?
Absolument pas, justement. Donc la criminalisation dont je parlais des occupants, donc selon Manuel Domergue, donc le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, la formulation, je cite, c'est un article, il était cité dans un article du Monde, cette formulation rendrait passible de peine de 3 à 15 ans de prison des gens qui squatteraient un logement vide depuis des années, ainsi que des locataires dont le bail a été résilié après des impayés, alors qu'actuellement, seule la violation de domicile expose à une peine d'un an de prison. Donc ça veut dire que même pour les gens qui ne pourraient plus payer leur loyer, s'ils décident pas d'eux-mêmes d'aller habiter dans la rue, et ben ils se retrouvent à être considérés comme des criminels et non comme des victimes de la crise du logement.
Et ce dont tu parles, Paul, le fait que des appartements vides, alors c'est souvent le cas à Paris, mais c'est pas un phénomène isolé, c'est-à-dire qu'on est dans une ville où les loyers sont tellement chers, mais il y a aussi des propriétaires qui ont plusieurs appartements ou qui ont un peu d'argent, et du coup ne louent pas leurs biens. Pour le moment, ils ont totalement le droit de le faire, il n'y a absolument aucune loi qui les en empêche ou qui les incite. On pourrait imaginer qu'il y ait une loi qui les incite qu'il y ait un accompagnement avec des loyers qui soient assurés, entre guillemets. Ça, c'est des propositions qui pourraient être faites, mais en tout cas, à Paris, je vous prends juste mon voisin, ça fait à peu près un an que l'appartement qui est juste à côté du mien n'est pas loué, parce que cette personne possède 10 appartements, et donc du coup c'est pas sa priorité visiblement. Mais sauf qu'il y a quand même plein d'appartements comme ça, et ça veut dire que c'est un nombre énorme de personnes qui se retrouvent à chercher des appartements. Il y a de moins en moins d'appartements à louer et de plus en plus de gens qui en cherchent.
Alors quelques chiffres à ce propos, tout à fait. Donc il y a effectivement, Danaï citait en introduction les logements vacants en Ile-de-France et à Paris. En France, ça fait 3,1 millions de logements vacants. Si on compare ces chiffres avec ceux du mal logement, en France, pareil selon la Fondation Abbé Pierre, on a 300 000 personnes sans domicile fixe et 1 million de personnes privées de logement personnel. Donc ça veut dire qu'en mobilisant correctement ces logements vacants, on n'arriverait même pas à remplir la moitié des logements disponibles avec des sans domicile fixe. Et donc on pourrait peut-être profiter de l'autre moitié pour mieux loger, par exemple, les 2,8 millions de personnes qui vivent dans des logements surpeuplés, par exemple. Et donc ça, tout à fait, on pourrait imaginer ça.
Attends, mais du coup, en ce moment, il y a quand même des personnes qui se mobilisent contre ce projet de loi. Il y a notamment des gens du collectif Droit au Logement qui occupent un espace à côté de l'Assemblée nationale depuis que l'examen du projet de loi a commencé. Est-ce que tu peux, pour terminer un peu ce passage sur cette loi, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se fait pour lutter contre ce phénomène, justement, cette loi surtout?
Alors, tout à fait. Pour lutter contre cette loi, donc, bon, je rappelle, donc, Emmanuel Wargon, ancienne ministre du Logement, est contre, elle a dit dans Le Monde du 28 novembre. Emmanuel Cosse, également ancien ministre du Logement, dit que c'est une mauvaise idée. Il y a l'association Droit au Logement qui se mobilise contre ça. Donc leur slogan, c'est « Se loger n'est pas un crime ». Et donc eux, ils ont lancé une pétition sur Change.org, et donc j'invite les auditeurs à aller lire cette pétition et à la signer si vous êtes d'accord. Donc non à la criminalisation des locataires en difficulté et des squatteurs de logements vides. Donc oui, où ils rappellent tous ces enjeux, et surtout donc ils appellent à lutter contre les causes plutôt que les conséquences de la crise du logement. Et donc pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre la crise du logement? Il y a plusieurs solutions. Développer le logement social et abordable. On peut rappeler que 2/3 des Français sont éligibles au logement social, parmi lesquels la moitié de locataires. Deuxièmement, massifier l'encadrement des loyers qui existe aujourd'hui dans les zones tendues, mais peut-être pas assez encadré. Troisièmement, donc, mobiliser les logements vacants, tout à fait. Il y a aussi les bâtiments vacants. On oublie souvent que au-delà des logements, là, par exemple en Ile-de-France, 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, ça fait l'équivalent de 44 tours Montparnasse qu'on pourrait tout à fait mobiliser pour ça. Ensuite, donc, lutter contre effectivement ces répartitions inégalitaires des logements dont parlait Benjamin à l'instant, c'est-à-dire que en France, 3,5% des ménages possèdent la moitié, 50%, la moitié des logements mis en location à des particuliers. Il y a une répartition très inégalitaire de cette propriété contre laquelle il faudrait lutter. Et donc une dernière chose, le projet de finances 2023 avait prévu la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence, donc qui sont également une réponse, même si c'est une réponse insuffisante, mais bon, c'est une réponse d'urgence à la crise du logement. Et donc, il y a eu une mobilisation des associations et des collectivités contre cette suppression qui finalement a été remise, ces 14 000 places ont été remises dans le budget de 2023, signe que la lutte contre les mesures injustes peut parfois porter ses fruits.
Et tu parlais justement des bureaux inoccupés en Ile-de-France. Ici, c'est tout à fait le thème, puisque Césure ou Sancier, enfin cette fac là, aurait dû, s'il n'y avait pas cette occupation temporaire de plateau urbain avec les 180 acteurs qui sont ici, aurait été gardé par un gardiennage et il n'y aurait eu plus personne sur le site pendant 2 ans, le temps qu'on prépare les travaux préparatoires. Donc c'est le cas de nombreux endroits.
Tout à fait, et c'est le signe que l'État, quand il le veut, peut montrer l'exemple et
trouver des solutions qui sont type économie sociale et solidaire et qui finalement arrangent un peu tout le monde, c'est-à-dire des associations qui s'installent ici à des prix très intéressant par rapport à Paris, et puis le fait que un site n'est pas inoccupé, c'est aussi des frais, et surtout ça peut dégrader le bâti, enfin bon, bref.
Un grand merci pour cet encart publicitaire.
Et donc pour poursuivre surtout sur la question des solutions, un peu aussi de l'accompagnement des personnes qui sont à la recherche dans le logement finalement, nous sommes avec Jean-Jacques aussi, que vous avez entendu au tout début. Jean-Jacques, tu es travailleur social, tu travailles au comité local pour le logement autonome des jeunes, et donc est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus ce que fait le CLAJ ?
Alors le CLAJ est une association qui informe et qui accompagne les 18-30 ans dans leur démarche liée au logement. Donc nous, on n'a pas de logement, hélas, à proposer directement aux jeunes que nous recevons. Mais déjà, on les rencontre, on leur explique tout ce qui existe, parce que le logement est très varié, et souvent les jeunes ne connaissent pas, ils connaissent les HLM, ils connaissent le logement privé. Et leur permettre de connaître un peu tout ce qui existe en termes d'alternatives, parce qu'on sait que la situation du privé est très complexe à Paris avec les garants et le prix. Et le logement social, c'est aussi très complexe parce qu'il y a des années d'attente pour espérer avoir un logement attribué. Donc permettre un peu de les informer. Et quand on les informe, après ils peuvent se situer. Et là après on les accompagne dans les différentes démarches d'accessibilité à des logements spécifiques pour jeunes. Par exemple, foyer jeunes travailleurs, résidence sociale jeunes actifs et tout. Peu connus du public. Et donc on les aide, on les accompagne, on les aide à candidater vers ce type de structure.
Ouais, et du coup, tu le dis toi-même, enfin, c'est un milieu qui est vachement compliqué, donc j'imagine qu'au CLAJ, vous vous associez avec d'autres acteurs qui sont aussi impliqués dans la mise à disposition de ces logements. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont ces acteurs et quel est leur rôle aussi? Comment est-ce que vous travaillez un peu main dans la main avec eux pour trouver des solutions?
Alors nous, sur deux volets, en fait, on accompagne de manière individuelle. Tout dépend ce que la personne, le jeune, souhaite. Donc on l'aide à candidater directement vers différentes associations qui ont des logements temporaires. Temporaires, c'est des contrats de 2 ans, généralement. Donc différentes associations, foyers jeunes travailleurs, résidences sociales, donc on fait des candidatures un peu spontanées vers ce type de résidence. Mais le temps d'attente est long. Le temps d'attente à Paris peut être de 3 mois, 4 mois, il faut connaître dans toutes les structures qui existent, donc il faut les connaître. Et à côté de ça, on a créé un programme au CLAJ destiné aux 18-25 ans, donc les plus fragilisés à l'accès du logement, qui permet l'accélération d'entrée dans ce type de logement. Donc on travaille avec la ville de Paris, la préfecture via le SIAO, Action Logement, qui réceptionne nos dossiers de ces jeunes qui ont participé par volonté à des différents ateliers pédagogiques pour pouvoir justement accéder à ce type de logement beaucoup plus rapidement, tout en étant accompagnés après leur entrée, parce que c'est que 2 ans, donc forcément C'est court, 2 ans, ça passe vite. Et donc, il faut déjà préparer un peu la sortie, de comment ça va se passer après. Donc, nous continuons de les accompagner après leur entrée, pour pas qu'ils soient trop perdus, et pour pouvoir trouver un autre logement par la suite.
Ouais, est-ce que tu me disais aussi, c'est que ces structures que tu mentionnes, donc la ville de Paris, le SIAO, notamment, enfin Action
et Logement,
et c'est des structures qui ont une forme de réserve de logement et que donc là, vous pouvez peut-être plus facilement aussi faire passer les dossiers des jeunes que vous accompagnez, c'est ça ?
Exactement, c'est ça, oui, voilà, ça s'appelle des réservataires de logements, donc ils ont un nombre de logements par résidence, par foyer, et c'est les seuls à pouvoir proposer un dossier. Et donc, nous, on prépare le dossier avec le jeune. On le prépare par les ateliers pédagogiques parce que c'est souvent des jeunes qui n'ont jamais eu de logement, donc c'est le premier logement, savoir ce que c'est qu'une caution, que des garants, une assurance habitation, les droits et devoirs du locataire, les aides qui existent, etc. Donc les préparer pour pouvoir envoyer des jeunes prêts, insérer professionnellement, qui sont en formation, qui travaillent, qui ont des projets de vie. Et ce qui leur manque pour compléter et pour se focaliser sur leur vie d'adulte, c'est le logement. Parce que c'est un peu la base pour pouvoir se construire, pour pouvoir se reposer, se concentrer, trouver un travail,
manger,
dormir, se laver. Chose très importante pour pouvoir se construire en tant que jeune adulte.
Ouais, bah oui, évidemment, c'est une sorte de droit fondamental. En fait, la question du logement, c'est un point de départ ensuite pour créer une vie d'adulte. Par rapport aux jeunes que tu accompagnes, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus quels sont leurs profils ? Est-ce que par rapport à l'âge, justement, tu accompagnes des jeunes qui vont de 18 à 30 ans, me semble-t-il ? Est-ce qu'il y a un âge où votre accompagnement est plus recherché ? Et aussi, un peu, qui sont ces jeunes, quoi ? D'où viennent-ils ?
Alors, en effet, nous, on accompagne tout jeune, 18-29 ans, 18-30 ans même on peut dire, une grande majorité quand même qui ont 21-25 ans. Et donc 21-25 ans, une bonne partie, ce sont quand même beaucoup d'anciens demandeurs d'asile, donc qui ont le statut de réfugiés et qui quittent les structures d'accompagnement qui pouvaient bénéficier en tant que demandeurs d'asile, et avec le statut, ils tombent entre guillemets dans le droit commun. Donc ils doivent partir de ce type de structure qui les accompagnait pour pouvoir accéder un logement classique. Donc beaucoup de réfugiés et beaucoup également de jeunes qui ont été longtemps placés dans l'aide sociale à l'enfance, qui ont été placés quand ils étaient mineurs, qui ont été accompagnés également par l'institution, par la mairie, le département, et qui à 18 ans, 21 ans, finissent leur accompagnement de jeunes ASE, comme on dit, de jeunes placés, et arrivent dans la vie d'adulte. Et souvent, ce type de profil, que ce soit les réfugiés ou les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, des personnes qui n'ont pas de soutien familial, financier, etc. Et donc qui ont besoin vraiment d'être au moins aidés, aiguillés vers l'autonomie.
Et justement, ces jeunes-là, est-ce que vous les accompagnez déjà peut-être avant même qu'ils sortent du foyer, qu'ils sortent des circuits d'accompagnement dans lesquels ils sont ?
Exactement. L'intérêt du CLASH, c'est en effet d'accompagner en amont, avant, on va dire, on appelle des sorties sèches, quoi, des jeunes réfugiés qui doivent quitter le centre de demandeurs d'asile, par exemple, et qui n'ont pas accès à quelque chose, donc peuvent finir dans la rue, dans des squats, dans des campements, dans des voitures. Donc tout notre travail, c'est de travailler en amont avec ce type d'association, de structure, que ce soit l'ASE, les sociales à l'enfance, ou des structures d'hébergement et des structures d'accompagnement de demandeurs d'asile, pour pouvoir faire une passerelle, qu'il n'y ait pas de risque de rue, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines. C'est quand même difficilement imaginable, mais c'est quand même long, 1 semaine, 2 semaines, sans trop en savoir où est-ce qu'on va dormir. Donc essayer de faire un vrai travail de coordination avec toutes ces structures, associations, pour pouvoir les stabiliser dans leur premier logement d'adultes.
Et peut-être juste une question pour finir, avant de voir s'il y a des gens dans le public qui ont envie de poser des questions ou de réagir. Benjamin parlait en introduction de la question de la difficulté de trouver un garant, notamment pour avoir un logement à Paris. Est-ce qu'il existe des mécanismes, enfin des aides qui permettent à ces jeunes dont tu parles d'avoir accès à une garantie ?
Oui, en effet. Donc avoir des garants physiques, parents, grands-parents, amis, c'est pas donné à tout le monde. Il existe différents organismes, dont un, parce que c'est celui avec qui on travaille beaucoup, qui est simple et qui est accessible à tout jeune, ça s'appelle la garantie visale. Peu compris ou accepté par les propriétaires privés.
Beaucoup devant, on est en extérieur, on rappelle, donc du coup, c'est les aléas
c'est vrai,
en direct de l'extérieur.
Il faut le rappeler.
Mais vas-y, donc du coup, tu...
Oui, donc j'ai la garantie visale qui permet d'avoir un garant pour entrer dans ce type de structure, par exemple foyer jeune travailleur, résidence sociale, donc qui permet à un organisme qui sera là pour régler un moindre impayé et qui est accessible donc à tout jeune.
Il voilà. Y a Luce qui arrive sur le plateau qui a envie de poser une question aussi.
Oui, bonsoir à tous. J'avais peut-être une question. J'ai l'impression qu'en France, on considère les jeunes, alors en tout cas, disons les 18-25 ans, comme étant les enfants de leurs parents et non pas comme des adultes. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur les dispositifs proposés pour, en matière d'aide au logement pour cette tranche d'âge?
Alors c'est difficile à dire hein, pour le coup ça. C'est vrai que il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses, c'est tout ce qui est mettre en place un dossier par exemple. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'avis de non-imposition par exemple, qui est beaucoup demandé pour déclencher des aides ou des droits. Et souvent ça va être des aides de position de leurs parents. Ce qui ne permet pas vraiment de s'autonomiser et de pouvoir bénéficier d'aides pour pouvoir accéder plus facilement à un logement.
Eh ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. Il y a Benjamin qui est parti dans le public.
C'est ton moment.
D'accord, il faut me prévenir. Hein. Bon, alors du coup, est-ce que je peux te poser une ou deux questions? Ça ne te dérange pas? On est en direct, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu peux te présenter déjà?
Alors, je m'appelle Camille, je travaille chez Blue Digo, ici. Donc, on a notre entreprise ici.
Vous étiez dans notre émission la semaine dernière, d'ailleurs.
Exactement. Ouais, on est un peu, on cannibalise un petit peu l'émission.
Tout le temps, là, en fait. C'est ça.
Bah, le mercredi, on aime bien boire un petit coup, en fait. En plus, il y a une petite soirée.
Buvette. Donc. Bon, alors, tu es plus étudiante, du coup, si tu travailles chez Blue Digo, mais on parlait un peu des galères de logement, notamment à Paris, c'est quand même pas toujours évident. En ce qui te concerne, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment le parcours parcours pas toujours évident pour trouver un logement?
Le parcours quand on arrive à Paris, généralement on est un peu hébergé parce que c'est très difficile d'anticiper parfois de trouver un appartement directement. Donc moi pour ma part, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai été hébergée chez ma tante, le temps de me mettre un peu dans le bain du boulot et d'avoir une structure qui soit assez solide pour avoir des fiches de paie, etc. Et à un moment il faut prendre son envol, donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Et donc en fait on a toujours, enfin je sais qu'on a beaucoup de difficultés autour de moi. Enfin, tout le monde a galéré pour trouver un logement. Et en fait, il y a ce moment-là où on doit se rendre disponible pour faire des visites parce que la demande, elle est extrêmement forte sur tous les logements, donc il y a des files d'attente.
C'est vraiment la compétition.
Hein. C'est exactement ça, la compétition. Donc déjà, on doit être sur les réseaux et sur le bon coin tout le temps et être le premier à pouvoir répondre en premier, parce que généralement, c'est les premiers dossiers qui sont les premiers accueillis, donc les premiers sélectionnés.
Alors toi, tu as de la chance que d'une certaine manière, tu avais la famille, ce qui n'est pas toujours le cas d'étudiants qui peuvent potentiellement venir à Paris pour faire des études et qui viennent de province, de région et qui n'ont pas forcément une tente à disposition. Donc c'est peut-être plus compliqué dans ces cas-là. Quoi.
Complètement. Et c'est pour ça que je me suis aussi retrouvée moi-même sur des réseaux, enfin sur Facebook, à trouver coloc, à partager, etc. Donc c'est un travail à temps plein qu'on doit essayer de mixer avec le travail réel qu'on fait. Donc vraiment un planning à temps plein pour ça. Et donc même à nos âges, aujourd'hui moi j'ai 33 ans, j'ai des amis qui sont aussi indépendants et qui doivent trouver des fiches de paye ou en tout cas falsifier des...
Ça c'est le sport un peu national, c'est-à-dire qu'en fait qui vraiment a donné des fiches de paye qui n'étaient pas un peu transformées, où tu montes tes salaires, où tu dis que tu es en CDI alors qu'en fait tu es en CDD
Exactement, parce qu'il faut savoir que c'est trois fois le loyer, donc un loyer parisien c'est quand même 1500-1200 euros, donc il faut justifier d'avoir un petit salaire de 4000 euros quand on commence sa vie parisienne.
Ce qui est loin d'être le cas de beaucoup de gens, hein, je vous confirme.
Mais qui qui à 20 ans a
personne en fait.
Personne. Donc il y a un vrai moment de transition. Donc voilà, soit on falsifie, soit on cède en fait d'une communauté qui est une communauté de Facebook ou alors une communauté d'amis, de famille qui sont là pour nous aider.
Et je sais pas si tu écoutais un peu l'émission, mais est-ce que par hasard tu aurais une idée de quelque chose qui pourrait aider à ce que le système change, c'est-à-dire je sais pas, quelque chose qui puisse aider le propriétaire à louer plus facilement, ou je sais pas, une mesure qui viendrait à l'esprit pour peut-être mettre un peu d'huile dans le rouage de ce système qui ne fonctionne pas?
Bah en fait, je me mets un peu à la place des propriétaires, et ce qui peut rassurer les propriétaires, c'est un un gage de paiement de loyer, donc forcément il faut aussi des garanties. Est-ce que je crois que ça existe déjà des...
Ça existe déjà, ouais. Pour autant, c'est pas forcément extrêmement utilisé par les propriétaires.
Ouais, je pense qu'il faudrait évidemment fludifier les... Bah les, j'avoue, je sèche.
Bon, écoute, je te laisse le reste de l'émission pour trouver une solution pour sortir la France de la panade. Merci beaucoup en tout cas.
Cette solution, revenez vers moi dans 10 minutes. Je finis ma pinte et j'arrive.
Merci beaucoup, Danaï. Je te rends l'antenne.
Et bah, peut-être que ça me permet de réagir sur une toute dernière question en fait pour toi, Jean-Jacques, par rapport au montant que les jeunes qui viennent vers vous, est-ce qu'ils doivent déjà avoir une base de en fait une base économique financière pour pouvoir prétendre à un logement?
Tout dépend un peu de ce qu'ils veulent en effet. Dans le privé, ça va être compliqué. Et c'est vrai que dans au CLAJ, on accompagne rarement vers le privé parce que garant, parce que salaire. Mais pour accéder à des logements dits temporaires, résidence sociale, foyer jeunes travailleurs, ce qu'ils exigent, c'est d'avoir minimum à peu près 700 euros de ressources. Dès qu'un jeune a 700 euros, nous on peut travailler avec lui, on peut l'aider vraiment à trouver un premier logement. C'est peut-être pas le logement de son rêve, c'est sûr, ça sera un premier logement à caractère social, hein, donc ça reste peu élevé, hein, 400 à 500 euros. Mais déjà avec 700 euros de ressources, on peut travailler, on peut faire quelque chose avec lui.
Eh bien écoute, merci encore d'être venu.
Je vous en prie.
Et on va lancer une petite pause musicale avant de poursuivre l'émission.
Ça fait longtemps que je fais ce qui rayonne des dés. Je dois encore aller au charbon, ma belle. On a déjà assez parlementé. T'as beau savoir que la ouais c'est le modèle. Je veux que ça bande, siège, chante. J'arrive, fuck this, yeah. Pourquoi il m'envie en speed? J'prends le risque sans hyper. J'ai dit faut que ça bande. Quand je vais chercher ma part. Gros, tu connais, c'est ma perf. Dans le fond de la barque. J'ai dit faut que ça bande. Quand je vais chercher ma part. Gros, tu connais, c'est ma perf. Trap, shit, dans le fond de l'appart. Dès que j'suis prêt, c'est dans la mélo. René, je suis le miel. Pousse les étoiles dans le ciel. Sur terre, c'est trop la merde. Recherche la peur, bleu mauve. Jamais moi j'perds mes mots. Même si j'suis blessé, boy. Pour m'arrêter, faut que j'sois mort. Dès que j'suis prêt, c'est dans la mélo. René, je suis le miel. Pousse les étoiles dans le ciel. C'est trop la merde. Recherche la peur, bleu mauve. Jamais moi j'perds mes mots. Même si j'suis blessé, boy. Pour m'arrêter, faut que j'sois mort. J'veux que ça bande, si elle s'habille. J'arrive, fuck this, yeah. Pourquoi il m'envie en speed? J'prends le risque sans m'y perdre. J'ai dit faut que ça bande. Quand je vais chercher ma part. Gros, tu connais, c'est ma perf. Trap, shit, dans le fond de la barque. J'ai dit faut que ça bande. Quand je vais chercher ma part. Gros tu connais c'est ma perf. Trap shit dans le fond de la part.
En attendant le moment sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
On est de retour en direct dans En attendant le moment et à Césure. Et pour débuter cette deuxième partie d'émission consacrée cette fois à la précarité chez les étudiants, on va d'abord écouter ce petit montage réalisé et publié par le site de l'Obs. On y entend et on y voit Maëlle, une étudiante de Sciences Po, qui raconte en pleurs dans une vidéo TikTok qui a été très suivie qu'elle n'arrive plus à étudier parce que sa bourse a été réduite, qu'il lui reste 100 euros par mois pour vivre. Et on entend en parallèle la réponse de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a fait une vidéo pour lui répondre, qu'il a diffusée sur Twitter, qui a répondu donc à Maëlle.
Nous sommes le 2 novembre et comme Maël, je sais que vous, étudiantes et étudiants, êtes déjà trop nombreux à vous demander comment vous bouclerez la fin du mois.
J'ai 100 euros de bourse par mois et avec ça, je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros.
Vous devez trop souvent faire face à la précarité, alors même que vous préparez votre avenir, qui est aussi notre avenir.
J'en peux plus, en fait, je suis censée genre payer ma vie. Comment je travaille, enfin je galère à faire des études, et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents n'ont pas de moyens.
J'insiste, ne restez pas isolés et démunis sans contacter le CROUS. Leurs équipes sont là pour vous. Ils ont proposé à Maëlle de bénéficier à nouveau d'une aide d'urgence. Ce qui doit être fait pour Maëlle, les équipes du CROUS le font au quotidien et pour tous ceux qui en ont besoin.
C'est hyper injuste les systèmes de bourse et il veut jamais gérer de cas personnels. Et si tu veux un truc particulier, il faut faire genre des centaines de papiers, ce qui prend surtout ton étude. Enfin juste, j'en peux plus.
Je veux aussi vous dire que je suis déterminée à vous aider.
On a fermé la cagnotte parce que pour moi, il y avait juste assez d'argent et je voulais permettre, pouvoir peut-être mettre en place une autre cagnotte pour que ça profite à d'autres étudiants ou à une association qui aide les étudiants. Et je me sentais pas à l'aise de recevoir plus d'argent que ça. Voilà. Je peux même pas vous dire genre à quel point je suis reconnaissante. Enfin, je peux même pas vous dire. En fait, vous avez changé ma vie.
Voilà, discussion entre Maëlle, cette étudiante de Sciences Po, et indirectement la réponse de la ministre. Et donc la situation, vous l'avez bien compris, de cette jeune étudiante s'est améliorée suite à l'ouverture d'une cagnotte en ligne, donc grâce à la solidarité, pas suite à une amélioration des conditions d'attribution des bourses qui sont toujours en discussion. On va probablement en parler avec vous. Vous, nos invités, Benjamin Floïc, président de l'association de solidarité étudiante Copain, salut.
Bonjour.
Bienvenue, faut parler bien dans le micro.
Faut parler bien dans le micro, bonjour.
Voilà, et Johanna Rassami Manansoa, c'est ça, qui est l'une des bénévoles de l'association à Paris. Bonsoir.
Salut.
Alors, voilà, on sent que tu es à fond, ça fait plaisir. Et Luc Burnot, tu nous as rejoint. Bonsoir également. Et avec toi, on va faire d'une certaine manière déjà un petit point sur la situation, quelques chiffres que tu vas nous donner pour débuter cette séquence.
Exactement, un petit tour d'horizon. Alors, si on a appris à vivre avec le Covid, il est difficile d'en dire autant des files d'attente d'étudiants pour les distributions alimentaires. Le deuxième confinement à l'automne 2020 a fait apparaître au grand jour la précarité étudiante, une situation sociale qui ne s'est pas résorbée depuis, bien au contraire. Entre l'inflation, la crise économique et la crise énergétique de cet automne, toutes ces conditions n'épargnent pas le coût de la vie étudiante. Un coût qui est en hausse, alors en hausse de 6,64% d'après l'UNEF, en hausse de 7,38% d'après la FAGE. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on note une certaine hausse en tout cas, du coût de la vie étudiante. Selon le baromètre 2022 de la confiance dans l'avenir réalisé pour l'étudiant par BVA, près de la moitié des étudiants à Bac plus 2 estiment que l'inflation a un impact direct sur leurs dépenses en alimentation. 4 étudiants sur 10 indiquent sentir les effets de la hausse des prix sur leurs dépenses de loisirs et un tiers des étudiants considèrent que les effets de la hausse des prix sont visibles sur leurs dépenses de mobilité. De son côté, le gouvernement a annoncé une hausse des APL de 3,5% ainsi qu'une revalorisation de 4% des bourses. À cela s'ajoute une aide de rentrée exceptionnelle de 100 euros pour les étudiants boursiers et les repas à 1 euro restent d'actualité. Toutes ces mesures sont insuffisantes aux yeux des syndicats étudiants et la ministre elle-même de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, convient que ces mesures ne permettent pas d'effacer ce qu'elle appelle les problèmes de fond. Et parmi les problèmes de fond, pour reprendre les mots de la ministre, il y a notamment celui des bourses, un système d'allocation rigide que d'aucuns qualifient comme étant à bout de souffle. C'est d'ailleurs ce que Maëlle, finalement, illustrait dans sa vidéo avec sa situation personnelle. La réforme du système de bourse a maintes fois été reportée sous le précédent quinquennat Macron. Ce quinquennat-ci devrait être le bon, à en croire la ministre, qui, auditionnée en juillet au Sénat, a annoncé lancer une vaste concertation sur le sujet d'allocation des bourses. La concertation a débuté en octobre. Sylvie Retailleau souhaite en voir les premiers impacts pour la prochaine rentrée universitaire en 2023. Et compte tenu de ce qu'est des difficultés techniques relatives à ce sujet, elle prévoit une finalisation de la réforme un peu plus tard, sans toutefois préciser le terme de cette réforme. Précisons que les bourses sont allouées en fonction des revenus des parents, qu'elles comptent 8 échelons, qui vont pour les personnes les plus pauvres de 5 077 euros par an, soit environ 570 euros par mois, pour les personnes qui seraient le moins dans le besoin, la bourse annuelle est de 1 000 euros, soit à peu près 100 euros par mois. On peut rajouter, pour avoir une échelle plus concrète, qu'il y a 3 millions d'étudiants en France, dont un tiers environ sont boursiers sur critères sociaux. On va revenir sur ces différents points donc, avec nos invités pour parler donc, de précarité et solidarité étudiante. Donc,
oui, bah en fait, une petite question toute simple. Là, on vient de vous donner pas mal de chiffres. J'imagine que vous le voyez de façon très concrète dans vos distributions. Avant même d'évoquer ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que ça vous évoque, tous ces chiffres, Benjamin et Joanna ?
Tous ces chiffres, ça montre que la situation ne fait que s'aggraver. Alors qu'on a fondé l'association après le premier confinement du Covid. Donc, notre objectif, c'est vraiment de toucher tous ces étudiants qui sont précaires, ceux qui sont boursiers, ceux qui ne le sont pas. Et malgré l'augmentation de nos places en distribution et l'augmentation du nombre de nos distributions hebdomadaires, on n'arrive toujours pas à pallier au nombre de personnes qui mériteraient de percevoir un panier ou d'avoir une bourse pour pouvoir avoir un train de vie digne.
Comme tu le disais, Johanna, votre association a été créée finalement après le premier confinement 2020. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association finalement et dans quelle mesure vous imaginiez qu'elle allait durer au moins 2 ans et plus peut-être ?
L'association, on l'a créée à 6. C'était une bande de potes, c'était un apéro Zoom. On a fait des remontées d'amis à nous qui me disaient qu'à la rentrée, ça allait être une catastrophe, qu'ils savaient même pas comment ils allaient pouvoir retourner à Paris parce qu'ils avaient aucune ressource, que tout était fermé et que du coup ça allait être la cata. Et certains nous ont dit qu'ils allaient être obligés d'aller au Resto du Cœur. Mais que ça les désolait parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas avoir le droit d'y aller, étant donné que c'est censé, en tout cas les dispositifs qu'on imagine, c'est censé être pour les sans-domicile fixe ou alors des dispositifs pour des familles, et du coup que ce n'était pas adapté. Nous, on a créé l'association pour essayer d'avoir une aide adaptée, une aide qui puisse permettre aux étudiants de se sentir légitimes à solliciter une aide alimentaire notamment, mais on fait plein d'autres trucs depuis. Et donc on s'est créé en se disant qu'on allait faire une distribution, puis une autre, on verrait. Et puis bah, on est passé rapidement à 3 distributions sur la première année. Maintenant on en fait 5, on en fait une à Marseille, une à Angers, une à Montpellier, bientôt une dans chacune des principales villes de France, parce qu'il y a un besoin criant et il y a un besoin qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Est-ce que vous avez été étonné que, alors au lendemain du déconfinement, vous disiez que vous attendiez entre guillemets à ce qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui viennent à vos distributions, même si clairement je pense que tout le monde a été choqué de voir ces vidéos ou ces photos avec des files d'attente de plusieurs heures, avec des milliers d'étudiants qui faisaient la queue, mais surtout le fait que ça continue 2 ans après, que finalement la précarité d'une certaine manière s'est installée, on ne s'attendait pas à ce que bah, dans un pays comme la France ça perdure.
Bien sûr que oui, bah, à la base, on se dit que c'est une initiative qui va durer 3 mois, et puis c'est une initiative qui dure 1 an, 2 ans. Et en fait, aux confinements successifs qui empêchaient les étudiants de bosser à côté de leurs études et qui du coup les plongeaient dans une situation de précarité, on est passé à un contexte d'inflation. Et là où la plupart des gens qui venaient nous disaient bah, « je viens parce que j'ai perdu mon petit boulot et que du coup je peux plus subvenir à mes besoins suffisamment pour étudier », maintenant on en a plein qui n'étaient pas forcément dans la précarité, même au sortir du premier confinement, et qui le sont maintenant et qui nous disent « mais moi ça allait, j'avais une situation assez stable, mes parents allaient bien et tout ça, mais là juste ils sont eux-mêmes tapés par l'inflation, moi aussi je suis tapé par l'inflation et du coup je peux plus subvenir à mes besoins, j'ai besoin une fois, deux fois, trois fois dans le mois de venir chercher un panier alimentaire ».
Alors justement, est-ce que vous avez un peu un portrait robot, ou alors quelles sont les caractéristiques des personnes qui viennent à vos différentes distributions alimentaires? Est-ce que vous avez un portrait robot et le nombre aussi de bénéficiaires par distribution?
Alors, pour faire un portrait robot, on a réalisé des études statistiques annuelles sur le profil de nos étudiants qui venaient chercher un panier lors de nos distributions. Majoritairement, ce sont des femmes. 7 femmes sur 10, ce sont des personnes plutôt avancées dans leur cursus universitaire, des personnes en master, des personnes dans des grandes écoles. Ce sont des personnes majoritairement non boursières, ce qui prouve que le système de bourse
a
des failles.
Il n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, ça aide une certaine catégorie, mais en fait, il y a aussi toute une paupérisation de la classe moyenne qui est une vraie réalité.
tu parles donc d'une population majoritairement féminine. Et alors justement, si on parle de femmes, on parle aussi peut-être de précarité menstruelle notamment. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est un volet sur lequel vous agissez ?
Oui, c'est un volet sur lequel on a travaillé. Donc dans notre étude, on a été choqués de voir le pourcentage d'étudiantes qui ne changeaient pas de protection menstruelle par manque de moyens. C'est 7 étudiantes sur 10 qui ont gardé une protection périodique plus que le temps recommandé par manque de moyens parce qu'elles ne pouvaient pas en acheter une nouvelle. Et donc nous, pour lutter contre la précarité menstruelle, on distribue des serviettes hygiéniques, des tampons, des culottes menstruelles réutilisables, des cups. Donc oui, c'est un volet qui...
On travaille avec Règles élémentaires que vous connaissez.
Bah justement, je voulais les saluer parce qu'on les a invités. Malheureusement, ils ne pouvaient pas venir ce soir, mais ils viendront dans une autre émission. Et effectivement, ils sont également installés à Césure et ils distribuent 2 millions par an, je crois, de protection. Vraiment, ils font un travail assez énorme. Ils ont 700 entreprises. On peut discuter avec eux. Ils ont 700 entreprises partenaires. Ils font vraiment un boulot assez important.
Et sur ce volet-là de précarité menstruelle, c'est nos partenaires principaux. Nous, ce week-end, ce samedi, on fait une distribution. Donc nous, oui, tout à l'heure tu posais la question du nombre d'étudiants qu'on aidait. Nous, on aide, on n'est plus à jour des chiffres parce qu'on a ouvert des nouvelles antennes et des nouvelles distributions, mais on aide entre 1300, 1500, parfois plus, la plupart du temps plus, étudiants par semaine. Et donc ce samedi, on fait une distribution sur la place du Louvre, devant, sur le parvis de Cugy, l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Et du coup, on fait une distribution alimentaire. Et à côté de ça, l'idée, c'est de mettre en avant tout ce que Copain fait pour répondre à la précarité. Et on travaille réglementaire bien sur cette distribution-là pour distribuer des protections périodiques réutilisables et faire de la sensibilisation aux questions de précarité menstruelle.
La précarité alimentaire, c'est généralement quand on a déjà rogné sur toutes les autres dépenses qu'on pourrait considérer comme étant annexes ou accessoires, comme notamment les loisirs ou la culture. Or, la vie étudiante, c'est parfois synonyme d'aller boire un verre en fin de semaine. Comment justement s'assurer que les étudiants puissent garder un lien social avec les autres étudiants, finalement ? Comment faire en sorte qu'ils puissent sortir un peu la tête de l'eau ?
Ce que tu dis là-dessus, c'est super intéressant, c'est que nous, on a créé l'association en faisant de la distribution alimentaire. On a rapidement rajouté tout le volet précarité menstruelle, distribution de protection périodique, de kits d'hygiène, parce que c'est tout aussi nécessaire au niveau... tout aussi nécessaire que la bouffe. Ensuite, très rapidement, on a rajouté un volet d'accompagnement parce qu'un étudiant en situation de précarité qui a besoin d'un panier alimentaire, c'est quelqu'un qui a forcément d'autres problèmes, des problèmes de logement, des problèmes de papier... des problèmes hyper divers et sur lesquels nous on essaye d'accompagner aussi, donc on redirige, on répond à toutes les questions. Et en plus de ça, donc dans l'étude, la première année on a fait l'étude, donc on a refait la deuxième année et qu'on est en train de refaire pour une troisième année, mais on voit très clairement qu'un étudiant qui en est rendu à demander de l'aide au niveau alimentaire, c'est quelqu'un qui n'a aucun budget pour ses loisirs, aucun budget pour avoir accès à de la culture, aucun budget pour avoir accès au sport. Et du coup, nous, on a créé aussi tous ces aspects-là dans l'action de solidarité de Copains. Et donc on organise des cours de guitare gratuits, on organise des sorties culturelles, des sorties sportives. Et l'idée, c'est aussi de permettre à des étudiants en situation de précarité d'avoir accès à tous ces loisirs-là par l'action d'une association dont la particularité est d'être 100% étudiante, et donc il n'y a pas de différence fondamentale entre quelqu'un qui vient chercher un panier et quelqu'un qui distribue un panier, à part le niveau d'argent sur le compte. Et encore.
Benjamin, Johanna, vous restez avec nous, on fait une pause et on se retrouve. J'ai encore d'autres questions à vous poser, et Luce aussi.
Tu vois ce que je veux dire ? Faut trouver le bail, t'as vu ça ? Genre, j'ai l'intuition. C'est encore le brouillard, tu vois ce que je veux dire ?
T'as pas de vision.
J'ai la vision, mais je navigue à vue.
Je traîne, je suis avec mes balafrés. Tout ce que je veux, c'est grailler des falafels. Je sais pas si ta volonté fera l'affaire. Désolé, j'ai pas le temps, ouais, j'ai des bails à faire. Y'a ce billet dans les poches. Je connais Paris et ça débauche. Ce que je veux, c'est mettre bien mes proches. Avant que la faucheuse me fauche. Cette garce me dit que je suis moche. Je m'en fous, j'étudie pour être mage. La vie, un livre, je tourne les pages. J'ai des rimes qui affichent des dommages. Chaque fois que je freine, c'est que je prépare un mauvais tour. Je connais les rues de ma ville, pas ni à manger trop netto. T'es aveugle à ma musique, elle va te frapper comme un sourd. J'ai une idée, je sais où je vais, même si parfois je suis perdu. Mais je sais où je vais, perdu. Mais je sais où je vais, perdu. Mais je sais où je vais, perdu. Mais je sais où je vais.
Il fait si froid l'hiver quand il n'y a pas d'argent. Elle me fait une petite mousse, cette fille est attachante. Je construis mon équipe, j'y mets que des attaquants. Je suis pas millionnaire alors, ne me parle pas de vacances. J'ai un sniper mais je tire à bout portant. Il part de la pluie mais je préfère le beau temps. Rien n'est grave mais tout est important. Tu parles beaucoup mais je te trouve bien portant. Petit les billets jouer à cache-cache. Je suis en elle, je me lâche. Faut faire bélec, faut pas que je cache. Je vois mon reflet dans les pavés, je suis pas sage. Chaque fois que je freine, c'est que je prépare un mauvais tour. Je connais les rues de ma ville, pas à manger trop netto. T'es aveugle à ma musique, elle va te frapper comme un saut. J'ai une idée, je sais où je vais, même si parfois je suis perdu. Mais je sais où je vais. Perdu, mais je sais où je vais. Perdu, mais je sais où je vais. Perdu, mais je sais où je vais. Ça marche pas, je cours à ma tombe. S'il y a pas de lumière, y'a pas d'ombre.
Chaque fois que je freine,
c'est que je prépare un mauvais tour.
Je connais les rues de ma ville,
pas d'un manger trop nettoir. T'es aveugle à ma musique, elle va te frapper comme un soir. J'ai une idée, je sais où je vais. Même si parfois je suis perdu, mais je sais où je vais. Perdu, mais je sais où je vais. Perdu, mais je sais où je vais. Perdu, mais je sais où je vais.
Lui, il est complètement perdu, par contre. Lui, il est du père sa mère. Mais j'ai l'impression que ça va tout seul. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois.
J'en suis là.
En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
Voilà, on revient sur l'émission En attendant le moment. Vous venez d'entendre le morceau Perdu de Swan qui nous était proposé par le collectif DMT Corp. On va revenir sur les questions de précarité étudiante avec Benjamin et Johanna qui sont tous les deux membres de l'association Copain. Et j'avais peut-être une question, c'est pourquoi finalement, en quoi Copain répond-il plus spécifiquement aux demandes des étudiants? Et pourquoi est-ce qu'eux, finalement, ils ne se tournaient pas jusqu'à présent vers le Secours Populaire ou les banques alimentaires?
Pour aider les étudiants à faire le pas pour se tourner vers une distribution alimentaire, ça demande beaucoup de courage. Et donc pour faciliter ça, nous on a facilité et on a rendu plus accessible la distribution alimentaire. On n'a pas de critères financières pour accéder à une distribution alimentaire. On vérifie pas de dossier, il faut pas présenter de papier, on vérifie pas leur reste du mois. Il suffit juste de présenter sa carte étudiante de l'année universitaire en cours et de s'inscrire. Et comme ça, il y a pas de, ça pose pas de barrière et tout le monde peut venir. Et dans un souci d'inclusion, on est tous étudiants dans l'association, donc ça permet de moins se sentir jugé et de percevoir le regard des autres quand on irait à une distribution des restos, par exemple.
Je lisais dans une étude du Secours Populaire qu'il y avait de nombreux étudiants étrangers qui étaient concernés par cette précarité. Est-ce que vous, c'est ce que vous voyez, entre guillemets, sur le terrain?
Ah oui, bien sûr. C'est une majorité des étudiants qui viennent à nos distributions sont étrangers et ils sont en situation de besoin parce qu'ils ne perçoivent pas de bourse du CROUS, notamment.
Et ça dépend des villes aussi, pardon. Ça dépend des villes. Il y a une majorité d'étudiants étrangers sur nos distributions à Paris, une très grosse majorité sur nos distributions à Marseille, à Angers, à Laval, qui sont des villes moins où il y a voilà, des villes très étudiantes aussi, surtout pour Angers, il y a des proportions d'étudiants étrangers qui sont moindres parce que du coup il y a l'attrait à l'étranger des grandes métropoles aussi et que voilà, c'est des écoles qui sont connues. Mais ça veut dire qu'il y a une précarité des étudiants étrangers qui est très forte parce que justement, ce que disait Johanna, ils sont exclus par principe des critères de bourse.
Il y a aussi une logique administrative qui n'est pas forcément toujours très accessible.
Évidemment, et puis une hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers à la fac en France, et puis même tout simplement des choses un peu du fait de l'inflation, enfin des différences de niveau de vie entre les pays d'origine et les pays et la France, des différences qui étaient peut-être plus faibles à l'époque au moment où ils sont partis et qui sont beaucoup plus fortes maintenant du fait de l'inflation. Voilà, c'est beaucoup d'éléments comme ça.
Une question par rapport au numérique, ou à l'ordinateur, au téléphone portable. Finalement, c'est des éléments qui sont indispensables pour faire des études aujourd'hui, mais c'est des éléments qui coûtent, c'est un certain investissement de départ, et ensuite pour avoir une connexion internet qui rame pas, il faut quand même avoir un forfait conséquent. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que vous avez des dispositifs qui permettent d'aider les étudiants?
Là-dessus, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a progressivement fait évoluer nos dispositifs avec d'abord de l'alimentaire, ensuite l'accès à la culture, l'accès au sport, on fait des distributions de vêtements aussi. Le numérique, c'est